Bonsoir. 8 détenus sont morts entre les 18 et le 23 septembre 2022 dans la prison centrale de Kalemi au Tanganyika. Les sources de cette maison carcérale attribuent ces décès à la malnutrition aiguë, à la tuberculose et à l'anémie. D'après les sources pénitentiaires provinciales, 47 prisonniers sont décédés à la prison centrale de Kalemi depuis le début de cette année 2022. À Mbujimayi au Kasaï oriental, 47 cas de tuberculose sont répertoriés dans la prison centrale depuis le début de cette année, a rapporté le coordonnateur du programme de lutte contre la lèpre et la tuberculose au Kasaï oriental. Il lie cette augmentation des cas à la promiscuité qui s'observe au sein de cette maison carcérale. Samedi 17 septembre dernier, la société civile de Fungurume, au Lualaba, a déploré l'évasion de plus de 50 détenus des cachots de cette commune rurale en l'espace d'une semaine. Le porte-parole de cette organisation a regretté que parmi ces évadés se trouvent des bandits des grands chemins. Quelle analyse faire des conditions carcérales en RDC? Quelle solution pour faire de ces prisons des véritables centres de rééducation? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Maître William Wenga, coordonnateur national de l'ONG Human Rescue et secrétaire exécutif du réseau des ONG de droits de l'homme de Kinshasa. Maître William Wenga, bonsoir.
Bonsoir Madame la journaliste.
Emmanuel Cole, président de la Fondation Bill Clinton pour la paix. Emmanuel Cole, bonsoir.
Bonsoir.
Et avec moi dans ce studio, Maître Désiré Simbi Chambali, conseiller pénitentiaire au sein de l'unité pénitentiaire de la MONUSCO. Il est aussi président du groupe d'experts pénitentiaires de la RDC. Maître Désiré Simbi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Tous nos efforts pour avoir le ministère de la Justice dans cette émission sont restés vains. À Kalemi, dans la province du Tanganyika, vous nous suivez sur la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net et sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, 8 prisonniers sont décédés en une semaine à la prison centrale de Kalemi, dont 4 dans la journée de vendredi dernier. D'après certaines sources proches de la prison, depuis plusieurs mois, les prisonniers meurent de malnutrition et des maladies. Le point avec Paulin Munanga.
Selon certaines sources, sur une période qui va du dimanche à ce samedi, 8 personnes ont perdu la vie à la prison centrale de Kalemi. Et les causes principales de ces décès sont la malnutrition aiguë, la tuberculose et l'anémie. Les mêmes sources renseignent que les responsables de cette maison carcérale ont des difficultés pour organiser l'enterrement des prisonniers décédés. Parfois, le gouvernement provincial du Tanganyika apporte un soutien financier. À certains moments, les responsables de la prison enterrent les cadavres avec leurs propres moyens. Ils utilisent des sacs mortuaires de la Croix-Rouge pour y mettre des corps et les enterrer. Et cela fait 6 mois que le gouvernement provincial ne subventionne pas la prison. Quant au gouvernement national, il subventionne trimestriellement. Mais au dernier trimestre, il ne l'a pas fait, signale des sources proches de la prison centrale de Kalemi. Le gouvernement provincial du Tanganyika a déjà pris des dispositions pour désengorger la prison. Kalemi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Merci Paulin Munanga pour ce reportage. Et cette situation est vécue dans presque toutes les provinces de la RDC. Maître William Mwenga, je rappelle que vous êtes coordonnateur national de l'ONG Human Rescue et secrétaire exécutif du réseau des ONG des droits de l'homme de Kinshasa. Vous avez suivi ce reportage des Kalemi. Votre point de vue par rapport aux conditions carcérales en RDC?
Oui, effectivement, nous sommes en train de suivre cette situation de près en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme de la République démocratique du Congo. Et notre préoccupation majeure, c'est que nous avons toujours l'habitude de demander le contrôle des conditions de détention effectuées grâce à des visites inopinées et régulières constituent l'un des moyens les plus efficaces de prévenir la torture et les mauvais traitements pour les personnes privées en liberté en République démocratique du Congo. C'est un travail que nous avions fait et que nous faisons toujours par rapport à tout ce qui se passe actuellement sur l'ensemble du territoire national. Et le respect de la dignité et de la valeur humaine constitue la substance des droits de l'homme. Car ces derniers jouissent sur le plan international d'une légitimité qui leur confère un plan moral inconstatable et qui constitue l'État et gouvernement des Nations Unies à ratifier des traités, à se soumettre librement aux obligations contraignantes à la matière. Même les efforts à prévaloir en République démocratique du Congo, nous l'avons souligné il y a plus de 5 ans, à travers la mise en place de plusieurs structures, notamment celle de l'Observatoire national des droits de l'homme, institué par le Parlement de transition en application de la résolution numéro 8 du dialogue intercongolais.
Oui. Les ONG ont décrié depuis longtemps, ça va faire longtemps que les ONG dénoncent les mauvais traitements des prisonniers, les mauvaises conditions carcérales, mais on a l'impression que la situation ne s'améliore pas. Qu'est-ce qui serait la base de cela selon vous? Est-ce un problème de volonté politique, un problème de manque de moyens? Qu'est-ce qui explique que les choses ne s'améliorent pas?
Non, madame, vous avez même souligné, c'est un problème de volonté politique parce que c'est le ministère de la Justice et garde de ceux qui est censé s'occuper de tous ceux qui sont détenus en République démocratique du Congo. Mais quand les prisonniers, les gens qui libérés de leurs droits ne sont plus encadrés par l'État congolais, il se pose un problème. Donc nous dénonçons avec la dernière énergie, le ministère de la Justice et garde des Sceaux doit faire son travail. Est-ce que c'est la mauvaise volonté? Oui, nous confirmons ça, c'est la mauvaise volonté politique pour ne pas mettre toutes ces personnes qui sont privées de leurs droits en ce qu'ils puissent bénéficier, n'existe que le minimum. Parce qu'il arrive au moment où les arrestations des personnes proposées à ce travail, notamment les OPJ, les AP, les officiers du ministère public et les agents d'État pénitentiaire, etc., commettent des actes interdits par la loi sur les personnes incriminées, présumées innocentes ou non innocentes.
Parlant de la promiscuité de nos prisons, le gouvernement a promis plusieurs fois de pouvoir réduire la capacité d'accueil des prisonniers et de construire de nouvelles prisons pour essayer d'aérer un peu ces espaces. Jusqu'à ce jour, c'est toujours ce problème qui se pose des promiscuités. Peut-on dire que ce sont les moyens qui manquent au gouvernement pour désengorger les prisons?
Quels moyens, madame? Est-ce que les moyens peuvent manquer dans ce pays pour vraiment mettre ces gens privés de leur sont dans de bonnes conditions? Les conditions dans lesquelles sont maintenus ces détenus, notamment les condamnés et les prévenus, sont manifestement inhumaines, humiliantes et très désagréables. Violent systématiquement des lois congolaises et les conventions internationales y afférentes. Loin d'être un outil de controverse, madame, ce guide ne doit pas permettre à ce que tous ceux qui sont privés de leur liberté, une mine d'informations et d'observations nécessaires pour les aider à améliorer leur gouvernance. Nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous avons plusieurs préoccupations et on se demande pourquoi les responsables, l'État congolais n'arrive pas à assumer ses responsabilités. Même si on dit que non, afin d'aider et restaurer la dignité humaine dans nos geôles, telle qu'exprimée par la loi fondamentale de la République démocratique du Congo et les textes du droit international relatif aux droits de l'homme, souvent délibéré et bafoué par certains censés protéger cette loi, nous avons quand même une Commission nationale des droits de l'homme qui est une institution d'appui à la démocratie censée faire des visites dans ces lieux de détention pour savoir comment ces gens sont traités. On peut qualifier déjà nos liens de tension, nos prisons comme des mouroirs. Vous entrez pour mourir, mais pas pour sortir comme il se doit.
Emmanuel Cole, vous êtes président de la fondation Bill Clinton pour la paix. Votre analyse sur les conditions carcérales en RDC.
Oui, madame, ce que mon confrère vient de dire, vraiment, la situation des prisonniers en RDC est catastrophique. Et je peux dire que c'est le crime. C'est un crime et selon moi, il faut même une sanction internationale contre l'RDC parce que tous les instruments juridiques, l'RDC a signé en matière de protection des détenus, ils ne sont pas respectés. Le prisonnier, il ne mange pas bien, le prisonnier dort sous le sol, les procédures judiciaires, on peut dire inexistantes. Je vous donne un exemple. de prison centrale de Matala, sur 10 000 détenus, il y a seulement 2573 qui sont condamnés. Imaginez-vous la carte. Et madame, si vous partiez loin, j'étais parti à Bandundu, j'étais parti à Bas-Congo, mais lorsque vous voyez comment des gens sont détenus, vous devez demander, nous sommes dans quel pays? Est-ce qu'il y a même un ministre des droits humains? S'il y a un ministre des droits humains, quel est le travail qu'ils font, cette ministre des droits humains? En tout cas, bien que des gens ne parlent pas, mais nous disons, ce qui est en train de passer, incroyable. Si tu es chrétien, allez à Makala, pavillon 6, pavillon 7, et lorsque tu vas sortir là-bas, si tu as une nourriture à la maison, tu ne peux pas manger. Maman journaliste, je vous dis que, il y a un proverbe qui dit que, si tu es en train de manger les mains d'un singe, le garde aussi votre main. Je demande aux politiciens actuels qui sont au pouvoir, que les prisons, c'est les portes ouvertes. Et ils doivent profiter lorsqu'ils sont dans l'affaire, d'arranger les problèmes judiciaires, les prisons. Dans tous les prisons, on est des, ils sont dans le rouge. Le 24, Kassai, Irobo, il y avait 89 qui sont évadés. Même là, c'est la province qui appartient au président de la République. Le président qui est au pouvoir, son propre province. Il y avait 89 qui sont évadés. Donc, madame, je vous dis que la condition est vraiment, vraiment catastrophique. Partout dans les prisons, on est ici.
Est-ce que, selon vous, c'est à cause de ces conditions catastrophiques qu'on enregistre de nombreux cas d'évasion dans les prisons de la RDC?
Tout à fait, ces mauvaises conditions, les sous-populations et les lenteurs judiciaires. Ce qui fait en sorte qu'il y a l'évasion. Il y a aussi l'administration, le bâtiment potentiel qui était construit par l'époque coloniale. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne trouvent pas réhabilité. On doit essayer qu'il y a un dolo, que les Pays-Bas avaient réhabilité et Mouzoumo qui était construit par l'Union Européenne. Et donc, on peut dire que tous les prisons ne sont pas dans les mauvais, elles sont dans les mauvais quelques mauvaises conditions. Si vous arrivez dans
une certaine prison... Donc, il n'y a même pas une seule prison en RDC qui remplit les conditions.
Bon, je peux dire que celui qui est à Mouzoumou, qui on vient de construire, là, qui peut remplir les conditions. Mais celui qui est à Makala, même prison centrale de Makala, il ne remplit pas les conditions. Il ne remplit pas les conditions. Donc, en tout cas, il faut tout refaire. Il ne remplit pas les conditions. Parce qu'il n'y en a pas les toilettes. Parce qu'il n'y en a pas assez pour que les prisonniers puissent être joués. Donc, il n'y en a pas les professions, formation professionnelle. On peut vous condamner 100 ans. Tu vas rester là-bas, donc si tu sors, vous n'avez pas aucune éducation. Et tout ça, là, comment vous doit dire rééducation? Mais vous l'éduquez quoi? Vous l'éduquez seulement pour aller manger, vous mourir? Non, on est éduqué avec la formation professionnelle. C'est tout le crouna. On arrête le crouna. Il va en prison, 5 ans, 6 ans, il sort. Aucun amitié. Même crouna, il commet l'infraction encore. On amène encore. Donc, il faudra que l'État mette sous pied et une formation professionnelle pour que cette crouna-là, lorsqu'il va en prison, lorsqu'il sort, elle est amitié. Et lorsqu'elle est amitié, il ne peut pas retourner encore en prison parce que ça va l'aider à travailler pour aider la famille. Il y a beaucoup à faire dans le domaine des services potentiels en aide.
Maître Désiré Simbi Chambali, vous êtes conseiller pénitentiaire au sein de l'unité pénitentiaire de la MONUSCO. Vous êtes aussi président du groupe d'experts pénitentiaires de la RDC. Les établissements pénitentiaires du pays présentent une image désolante. Et parmi les caractéristiques communes des prisons congolaises figurent les délabrements très avancés des infrastructures, la surpopulation, le manque d'hygiène, la rareté des nourritures, la carence des soins, des santé. Alors, vous, en tant que conseiller pénitentiaire au sein de l'unité pénitentiaire de la MONUSCO, vous avez l'habitude de faire des descentes sur terrain, visiter les prisons de la RDC. Pourquoi ces conditions ne s'améliorent pas? Parce que ça fait très longtemps qu'on décrit quand même les conditions carcérales en RDC.
Oui, merci beaucoup, madame, la journaliste, pour la belle question. Et c'est que les co-débatteurs que je salue déjà ici en ligne, ainsi que les auditeurs qui nous suivent. On a décrit les éléments importants d'abord des conditions de détention. C'est que la première chose, c'est la vétusté des bâtiments. Et ça, c'est un élément important d'abord parce que toutes les prisons étaient construites avec l'évaluation d'une population autour. Aujourd'hui, la démographie a grimpé, mais ces établissements ne se sont pas adaptés à cette démographie. Ce qui fait que nous avons le deuxième facteur, c'est la surpopulation carcérale qui s'ensuit et qui n'est pas aussi bien gérée par l'autorité. Et on a soulevé le problème de la promiscuité. La promiscuité, justement, vient de là que nous avons le taux le plus élevé au niveau de la détention, et vous allez voir comme quelqu'un parlait de Makala qui arrive déjà à environ 600% ou 700% d'occupation de la prison. Donc c'est une surpopulation qui est vraiment très désolante. Vous avez cité Kalemi qui est à plus de 500% parce qu'il y a une prison de 150 mais qui arrive déjà au-delà de 700. Vous comprenez que ce sont des conditions déplorables. Et la question a été aussi soulevée au niveau de l'alimentation. Et ce qui se pose comme problème en RDC, c'est que d'abord, c'est pas toutes les prisons qui sont opérationnelles qui sont subventionnées. Et même celles qui sont subventionnées, et la subvention vient irrégulièrement, on ne sait pas qui bloque qui. Le montant qui est alloué ne tient pas compte de l'effectif des détenus parce qu'on doit avoir un budget progressif. Et si donc il faut une étude progressive de la population carcérale pour savoir que après 3 mois la population doit s'augmenter. Même si on envoie la petite somme, on n'est pas sûr que cette somme arrive au niveau des détenus. Donc c'est autant de questions qui se posent au niveau des détentions. J'ajoute aussi donc les questions sanitaires qui s'ajoutent parce que nos prisons ne sont pas prises en compte au niveau de la santé publique. Ce qui fait que les prisons là où elles sont, elles dépendent de la zone de santé sur le plan des soins médicaux. Or, vous allez constater à l'exemple de Makala qui a déjà plus de 10 000 détenus, c'est peut-être toute une commune. Dépendre donc de la zone de santé de Selembao, c'est une mauvaise approche peut-être pour les faits. D'où il faut une structure médicale pour que l'on puisse intégrer les soins de santé de détenus dans le système de santé publique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en tant que conseiller? C'est justement assurer une assistance technique, apporter des conseils au niveau des autorités qui sont des responsables.
Vous vous limitez juste aux conseils?
La première chose, c'est des conseils, parce que c'est à partir des conseils qu'ils vont mettre des mécanismes solides. Je veux dire, par exemple, au niveau de la structure, si vous arrivez au niveau du ministère ou de la direction des services pénitentiaires, vous allez voir que même l'ordonnance 644 n'est pas respectée en termes de structure. Il faut donc donner d'abord des conseils sur le plan de la structuration, sur le plan de ce qu'on doit faire pour les détenus. D'abord, les conseils, parce que ça permet que l'on puisse prendre en compte tous les aspects que je venais de soulever, notamment comment on doit construire des bâtiments, comment on doit réhabiliter, comment on doit calculer l'alimentation des détenus, comment on doit gérer les problèmes de santé, mais surtout la question de la surpopulation. Donc on commence d'abord par les conseils. Deuxième élément, c'est que nous passons au niveau de la formation. La formation du personnel. Parce que ici, nous sommes en train de parler des conditions de détention, mais ça ne se limite pas seulement au bâtiment. Le personnel qui doit encadrer les détenus, c'est un personnel qui doit être recruté dans des normes. Mais allez peut-être faire une enquête pour savoir comment on recrute. Peut-être on recrute en famille ou à la maison des personnes qui n'ont pas de connaissances préalables pour que l'on puisse gérer une prison. C'est ainsi que nous organisons donc des formations, et lorsqu'on vous donne des statistiques, nous sommes au-delà peut-être même de 4000 personnes déjà formées, du moins ça peut être 1000, mais qu'on a formé plusieurs fois avec des cycles. Mais nous voulons quoi? C'est les changements pour que ces personnes soient capables de savoir comment encadrer ces détenus.
Alors,
comment
mettre les mécanismes. Qui a formé ces personnes?
Exactement. Nous le disons parce qu'il y a des statistiques qui parlent. C'est depuis 2006 que la MONUSCO est là. Nous avons des statistiques et même de noms des personnes qui sont formées. Mais est-ce que ce personnel qui est formé est déployé à leur poste?
Justement, c'est la question que j'allais vous poser.
Donc, autant de questions.
Est-ce que ces personnes sont déployées dans les prisons?
Et voilà, donc ce sont des questions là d'évaluation que certaines personnes peuvent être formées mais restent au niveau du ministère, etc., avec leurs connaissances. Est-ce que ces personnes qui sont formées sont envoyées à des postes gestes qui sont prévus, là, c'est une autre question et nous, nous essayons de conseiller que voilà, il faut placer tel
vous
à tel
poste. Vous ne faites pas de suivi, il n'y a pas de suivi après cette formation?
Nous faisons des suivis. Nous savons, nous faisons le suivi, mais nous n'avons pas un bâton pour exiger. Et la deuxième chose, c'est que nous n'avons pas un mandat exécutif. Nous sommes là pour que nous puissions appuyer ces institutions afin que ces institutions soient professionnalisées. Donc, au niveau de la formation, il faut que le personnel pénitentiaire bénéficie d'une formation initiale. Et je vous dis, madame, que la RDC a bénéficié de deux formations, des formations de grand niveau, des formations qui n'ont jamais eu lieu dans ce pays. Vous avez toujours entendu qu'il y a eu une formation à Kapalata. Le personnel a fait 3 mois cantonné à Kapalata pour une formation solide et là, ça devait donner donc de base. Ce personnel est là et est utilisé conformément à l'autorité. Comme je vous ai dit, nous donnons des conseils, nous faisons le suivi pour l'autorité et que l'autorité doit utiliser les ressources qui sont là et qui sont disponibles. En dehors même de la formation sur terrain, nous avons amené des cadres pénitentiaires à l'étranger pour des voyages d'études, voir comment se pratique l'encadrement des détenus à l'étranger, notamment au Sénégal. Et je vous informe que le Sénégal,
c'est la MONUSCO qui a pris en charge ces voyages.
Les séjours, les voyages, etc. C'est la MONUSCO pour que les cadres congolais puissent voir aussi comment on traite les détenus ailleurs et ainsi et copier. Nous avons été au Sénégal, nous avons été au Burkina Faso, au Kenya et en Ouganda. D'ailleurs, dernièrement, vous avez suivi Madame la ministre d'État et la justice était en Ouganda avec toujours notre appui. Voyage et séjour pour voir aussi comment même on pratique les activités de réinsertion sociale parce que les détenus ne sont pas là pour justement bavarder mais ils doivent être utilisés. La prison aussi ne doit pas dépendre du trésor mais la prison peut produire aussi pour même contribuer au trésor. Mais il suffit tout simplement d'avoir les réflexes de management. Nous avons réhabilité au moins 62 prisons. Là, je vais vous citer qu'il y avait des prisons qui n'étaient même pas opérationnelles, mais qui sont aujourd'hui opérationnelles. Je vais citer la prison de Walikale, qui n'était pas opérationnelle, que nous avons rendue opérationnelle depuis 2015. La prison de Mitouaba, la prison de Bouta, qui était par terre. C'est la MONUSCO qui a construit, ou si je peux dire, reconstruit. Parce qu'il y a des prisons qui n'étaient pas opérationnelles. La prison de Manono, etc. On a toute une liste, si vous voulez, vous pouvez les consulter, pour que l'on puisse... Mais lorsque vous construisez, il faut aussi la maintenance. C'est que la maintenance, c'est l'État. C'est l'État qui doit continuer pour dire que voilà, nous allons maintenir. Mais vous construisez aussi une prison de 150 détenus. Après, vous y trouvez 500. Après une année, je crois que vous n'allez pas trouver les mêmes conditions. Donc, voilà autant de choses. Mais aujourd'hui, nous sommes allés plus loin sur le plan sécuritaire, avec des clôtures pour les prisons, notamment à Beni, aujourd'hui à Goma. Et nous sommes en train de voir maintenant au niveau de la réforme. Nous travaillons beaucoup pour que l'on puisse avoir un cadre juridique qui permet que l'on puisse gérer ces prisons avec humanité. Je sais que nous allons peut-être arriver au niveau des solutions.
On va en parler dans la deuxième partie. Justement, la deuxième partie qui sera consacrée aux solutions pour faire de ces prisons de véritables centres de rééducation. Mais avant d'aborder cette deuxième partie, prenons ces auditeurs qui sont nombreux à appeler sur notre standard, qui veulent aussi donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. Maître William Wenga, on va se rendre à Goma pour écouter cet auditeur.
Jomez Messap Moussagaloussa depuis la ville de Goma. Sur toute l'étendue de la République, les conditions de détention sont désastreuses. Il est difficile, voire même impossible, de réaliser 2 mois sans pour autant entendre une mauvaise nouvelle concernant la situation des détenus dans nos prisons. Je ne connais pas une seule prison en RDC qui tente de réunir les conditions de vie sur toute l'étendue de la République. Moi, je crois, à un certain moment, il faut initier des actions en justice contre l'État congolais, ainsi que toutes les personnes responsables des centres d'incarcération. Contrairement au temps passé, actuellement, les prisons sont des centres de rééducation, mais lorsqu'un individu entre dans une prison, il parvient à développer un haut degré de criminalité suite aux conditions de détention. Et on se demande, est-ce que nous sommes toujours dans une république? Est-ce que nos autorités ont une conscience? À mon avis, Il est temps de réformer la législation congolaise en matière de détention afin de dégager les responsabilités de l'État congolais et c'est des personnes qui interviennent dans les conditions des détenus. Merci beaucoup.
Maître William Wenga, que pensez-vous de ce point de vue de Jomez qui nous a appelé depuis Goma?
Oui, madame la journaliste, je suis parfaitement d'accord avec la personne qui venait d'intervenir parce que nous sommes aussi des organisations de défense des droits de l'homme et nous avons été en mesure de démontrer certains dérapages. Nous avons beaucoup insisté sur la surpopulation permanente. La surpopulation permanente. Parce que chez nous, en République démocratique du Congo, la détention provisoire est institutionnalisée au lieu d'être une exception. Ce qui n'est pas normal. Cela est dit à la lanterne de la justice, qui dirait est probablement attiré par la police et les militaires dans de nombreuses zones et entités. J'ai continué en disant que la justice civile est presque absente. Les évasions, suivies souvent des chasses à l'homme et d'assainissement, sont récurrents et placent un discrédit au fonctionnement de la justice pénale. Chez nous, en République démocratique du Congo. La séparation entre détenus n'est pas toujours respectée entre prévenus et condamnés, adultes et enfants, femmes et hommes. Les enfants en conflit avec la loi ne bénéficient pas, et je dirais même partout, des droits garantis faute des tribunaux et prisons pour enfants. Ce qui constitue vraiment une anomalie. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On fait du mélange d'une personne qui est condamnée avec une personne qui est encore prévenue. Il n'est pas encore condamné. C'est anormal. Et je me rappelle, en 2017, nous avons travaillé là-dessus dans 15 ou 6 prisons de la RDC. À Bukavu, à Goma, même ici à Kinshasa, où nous avons demandé aux autorités de séparer une personne qui est encore prévenu et une personne qui est déjà condamnée. On ne peut pas les mélanger ensemble. Il faut les séparer. Les enfants en conflit avec la loi et les femmes. Je suis vraiment d'accord avec lui, mais ce qui est important, en tant que structure, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, et là, j'étais à rassurer les autres collègues qui sont avec nous en ligne, dit que non, c'est le ministère de la Justice et garde des ceux qui gèrent les prisons. Ce n'est pas le ministère des droits humains. Le ministère des droits humains a pour rôle seulement de faire le suivi des conditions des personnes détenues ou des personnes condamnées. Mais tout ce qui est comme responsabilité, c'est le ministère de la Justice et garde des ceux. Malheureusement, nous sommes en train de vivre dans notre pays, ça nous dépasse pas.
Emmanuel Cole, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.
J'ai donné Bangé fils, hein. J'interviens depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. D'abord, il faut ici rappeler que la prison n'est rien d'autre que la place réservée aux indisciplinés sous ordre nationaux et les conditions carcérales ne doivent pas être précaires car ces hors la loi ont aussi droit à la vie. Mais hélas, d'aucuns ignorent que cette promiscuité s'observe dans toutes les prisons du pays, sans exception aucune. C'est bien beau de dénoncer que ces morts sont dues à la malnutrition, à l'anémie et la tuberculose. Mais moi, je trouve que le plus important, c'est que les gens doivent répondre pour mettre terme à cette négligence, car la vie humaine est sacrée. Sous d'autres cieux, le ministre de la Justice et son collègue des droits de l'homme devraient d'urgence répondre et les sanctions sévères devraient s'en suivre. Malheureusement, dans notre pays, on peut certes interpeller ces derniers, comme on en a l'habitude, pour aveugler l'opinion, mais après, c'est les mêmes problèmes qui persistent.
Emmanuel Cole, président de la Fondation Bill Clinton pour la paix, votre réaction sur ce que vient de dire cet auditeur de Lubumbashi?
Oui, effectivement, la responsabilité incombe à l'autorité. Nous sommes les conseillers, nous sommes des gens qui nous viennent à l'appui. Donc nous, on ne peut pas constituer des états. Donc, si j'ai parlé des ministres des droits humains, c'est parce que le ministre des droits humains, c'est lui, en principe, cette poste-là, ça ne sera pas être un poste politique. Chaque fois, depuis longtemps, nous disons, il faut s'ennuyer les ministres des droits humains à la société civile. Mais, notre tourment, chaque fois, lorsqu'on le nomme, on nomme un ministre des droits humains d'un homme politique. Mais ce n'est pas se faire. Parce que cette ministre, c'est net. Si cette ministère est net, elle a le poids de contredire l'action du gouvernement. Même comme c'est un ministère qui appartient à l'État, elle est là pour protéger l'État. Tout ce qui est en train de passer, mauvais ou bien, il ferme les yeux. Hein, parce que s'il y avait un ministre des droits humains, il doit faire un rapport, même contredire l'État congolais, pousser l'État congolais à respecter les conditions des prisonniers, les instruments juridiques à laquelle RDC a signé et ratifié. C'est comme on vient de dire. Vous savez que dans un état de droit, lorsque un détenu meurt en prison, l'État doit dommager la famille. Mais ce n'est pas le cas. Comme on vient de dire, lorsque quelqu'un meurt, parfois on ne prend pas la famille, on prend le corps, on donne un corps ou bien une autre. Et le parent ne gagne rien. Vous voyez, et je crois qu'il faut que RDC respecte l'instrument juridique qu'il a signé et ratifié. Moi, pour les solutions, je ne peux pas les solutions, c'est quoi? Il faut une mesure restrictive contre le magistrat qui prend la justice comme commerce. Qui prend la justice comme commerce. Les conditions, c'est-à-dire...
Est-ce que ce sont les magistrats qui sont à la base de ces mauvaises conditions carcérales?
Non, ce n'est pas le magistrat, mais ce sont de l'antenne judiciaire. Le caution à payer. Le caution à payer, cela fait en sorte que beaucoup les prisonniers ne parviennent pas à quitter leurs droits. Par exemple, quelqu'un qui a volé 1000 dollars avant de sortir en prison, on lui demande 1500 dollars. Il va trouver ça où? Donc, l'État doit définir le caution à payer concernant la liberté provisoire. Parce que ce n'est pas défini. Nous avons fait les enquêtes au niveau de DGAT. C'est-à-dire que le magistrat verse seulement 20 dollars. Mais il prend au-delà de 20 dollars. Ce sera qui épouse le magistrat de remplir les prisons, parce que s'il arrête beaucoup, il doit avoir beaucoup d'argent de liberté provisoire. C'est pour cela que je souhaite que vous dire que, voir le cas, sur 10 000, plus de 10 000 détenus à Makala, à Ndolo, c'est 2 000 quelques, à Makala, il y a seulement 2583 qui sont condamnés. Imaginez-vous le cas. Donc tout ça, c'est à cause sur le problème de liberté conditionnelle. Il faut que l'État, ministre de la Justice, mette à son sous contrôle judiciaire. Quel est le magistrat qui a ces dossiers? Qu'est-ce que tu as fait avec le dossier? Il faut vraiment les mesures que le défunt Roland Désiré Kabila a pris pour provoquer 553 magistrats. Il faut que cette affaire revienne pour que le magistrat sache que personne au-dessus de la loi.
Maître Désiré Simbi, on va prendre aussi pour vous très rapidement cette dernière réaction qui nous vient de Idjwi, dans la province du Sud Kivu.
Docteur Michael Bolingo Sebesimaogo, à partir d'Idjwi. Ce bilan présenté ne peut pas nous étonner, car nombreux pensent que la prison c'est un lieu de pendaison, surtout des gardes de la prison. Vous imaginez même donner à un prisonnier de la nourriture, il faut payer quelque chose. La prison est un lieu éducatif. Malheureusement, nos prisons ne réalisent pas les conditions minimum possibles. Vous pouvez vous imaginer une prison construite pour 1000 personnes, va contenir 4000 personnes, avec les conditions d'hygiène précaires. Tous les malnutris développent la plupart des tuberculoses, car il y a eu baisse de l'immunité. C'est pourquoi l'État doit prendre des mesures nécessaires pour rendre les prisons viables. Et aussi le service minimum de la santé, la prise en charge psychologique. Une voyage, souvent nous le connaissons. Peut-être va aller visiter dans d'autres prisons pour voir comment les choses sont organisées ailleurs. Même les gardes de la prison doivent être pris en charge pour éviter de tels évasions que nous observons souvent.
Maître Désiré Simbi, vous avez suivi cet auditeur qui nous appelait Didri, qui a donné son point de vue par rapport au thème de ce soir. On va parler des solutions. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces prisons soient des véritables centres de rééducation?
Merci beaucoup. Madame, je crois que nous avons soulevé tous les problèmes et la situation est grave. C'est juste attirer l'attention de l'autorité. La première chose, D'abord, c'est d'avoir un cadre juridique qui est solide pour savoir qui fait quoi pour que l'on puisse améliorer ses conditions.
L'actuel qui existe n'est pas solide,
et là,
solide plutôt.
Non, c'est pas solide. L'ordonnance 344 qui est l'ordonnance 344 du 17 septembre 1965, portant régime pénitentiaire, n'est pas solide. Il lui faut vraiment un soutien pour que l'on puisse avoir d'abord une loi qui fixe les principes, notamment le respect des droits humains, et l'organisation même du service pénitentiaire. Il faut que l'on puisse d'abord avoir cette loi qui va nous donner des traces. Parce que c'est ça, ce qui va rentrer dans le respect des standards, notamment les règlements de la, ainsi que d'autres textes internationaux. Mais aussi, il nous faut une direction. Parce qu'il se pose un problème organisationnel. Il faut une direction générale de l'administration pénitentiaire qui gère la carrière du personnel, mais aussi toute l'administration pénitentiaire. Il faut une direction générale. Parce que cette direction devra non pas gérer seulement administrativement, mais sur le plan budgétaire, c'est cette administration qui est composée des spécialistes du domaine, parce que c'est pas un domaine où on envoie quelqu'un comme ça. C'est pas dire que non, quelqu'un a terminé en droit, donc il peut gérer l'administration pénitentiaire. Ça demande une formation. Nous sommes là depuis 15 ans pour que l'on puisse avoir un avis à donner. Donc il faut une direction composée de professionnels qui vont mettre sur pied toutes les conditions qui sont possibles, et notamment un budget conséquent. Parce que vous allez voir plus tard qu'il faut, troisièmement, avoir un statut particulier pour ces personnels. Les personnels pénitentiaires doivent travailler 24 sur 24 pour éviter tout ce qu'on vient de soulever, notamment des capitales générales qui imposent toute la loi à l'intérieur de la prison. Parce que savez-vous qu'en RDC, à 16 heures, tous les personnels partent et les détenus se gèrent. Voilà pourquoi il y a des tortures, il y a des quoi, et qu'il faut donc que l'on puisse au moins arriver à avoir un statut particulier qui permet à ce personnel d'avoir des avantages liés à l'exercice. Mais comme vous allez le voir plus loin, ces statuts particuliers aussi, c'est parce que ces personnels qui gèrent des gens qui ont tué, des gens qui ont violé, ces personnels qui gèrent les militaires, qui gèrent les civils, les personnes qui viennent des groupes armés, ces personnels doivent être armés, ces personnels doivent avoir une uniforme. Vous voyez, même tout le personnel, lorsque nous allons dans des conférences internationales, c'est la RDC qui est en t-shirt ou en chemise. Mais le personnel pénitentiaire doit être habillé. C'est un service spécialisé. Et plus tard, nous allons défendre les statuts du personnel de sécurité pour que vous puissiez comprendre. Et enfin,
dans une autre émission peut-être, parce
oui,
que nous sommes presque à la fin
exactement.
De notre débat.
Et finalement, il nous faut maintenant un décret portant régime pénitentiaire. Là, nous aurons la typologie des établissements pénitentiaires. Parce qu'ici, nous parlons prison, mais tout n'est pas prison. La prison est définie différemment d'une maison d'arrêt, différemment d'une maison de correction ou différemment d'un camp de détention. Donc, il y a autant de typologies qu'il faut avoir pour savoir. Les prévenus doivent être là-bas, séparés des condamnés. Nous devons savoir que là, on doit avoir les détenus de haute sécurité, c'est-à-dire les plus dangereux par rapport aux autres. Cela permet de réduire les violences ainsi que de bien gérer toutes ces structures. Ça, c'est le cadre légal.
Alors, il faut conclure, maître, parce que la réalisation me signale qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire, mais il faut conclure.
Hein. Exactement. Je voudrais conclure sur des mesures rapides par rapport à la surpopulation carcérale. Nous sommes à Makala avec la surpopulation, c'est la même chose à Goma, c'est la même chose à Bunia. Il faut construire une nouvelle prison à Kinshasa, parce que l'ordonnance 344, à son article 5, dit qu'il est établi une prison centrale dans la localité où se trouve le siège ordinaire d'une cour d'appel. À Kinshasa, on a deux cours d'appel, il nous faut une autre prison, peut-être dans les ressorts de la cour d'appel de Matete, ça va désengorger. Et la réhabilitation de Osio, le cas de détention de Osio et dans le Haut-Katanga, nous avons un autre camp de détention. Ça pourrait réduire la surpopulation dans la prison de Makala et d'ailleurs.
Merci, maître Désiré Simbi. Maître William Wenga, on va vous demander aussi de conclure très brièvement. Qu'est-ce que vous proposez pour que les prisons deviennent de véritables centres de rééducation?
Effectivement, madame, la première des choses, c'est comme les délégués de la MONUSCO l'a si bien dit, premièrement, les décrets portant régime pénitentiaire, c'est d'une importance capitale. Parce que là, on saura qui fait quoi, où, quand, comment et avec qui. Ça va faciliter beaucoup de choses. Deuxièmement, connaître les prévenus ou condamnés les plus dangereux pour voir comment les séparer. Je l'ai cité même quand j'ai parlé. On ne peut pas mélanger. Et les prévenus et les condamnés. Et les enfants et les femmes. Non. Il faut voir dans la mesure du possible comment séparer ces situations. De trois, faciliter aux magistrats de faire des visites régulières dans les lieux de détention, dans les prisons, pour connaître des cas de violation. Parce qu'il y a des gens qui sont là des années, sans dossier. Si les magistrats au moins pourraient passer, voir les cas irréguliers, je pense qu'on pourra arranger beaucoup de choses. Et pour éviter tout ce qui est comme surpopulation dans le lieu de détention, il faut éviter aussi, à chaque fois que quelqu'un vient visiter un membre de famille, il faut donner encore de l'argent. C'est ce qui décourage pas mal de familles. Vous arrivez pour voir quelqu'un qui est arrêté ou bien détenu, ou bien où il faut donner 10 dollars, 5 dollars pour que la personne puisse avoir la nourriture, ce qui n'est pas normal. Voilà un peu de mort, comme vous l'avez dit, que vous êtes acquis le temps, vous coupez. Par rapport à ces 3-4 points, moi, je pense que si au moins on peut respecter ce qui est prévu par la loi, on pourra quand même diminuer et permettre à ce que
les choses vont s'améliorer.
Les personnes condamnées puissent se mettre dans des conditions acceptables.
Merci.
Et il faut éviter cette surpopulation. Parce qu'on dit toujours la prévention, c'est une. Mais que ça ne soit pas une décision finale. Quand quelqu'un est déjà prévenu, il ne peut pas dire que non, il doit assumer.
Merci, Maître William Mwenga. Emmanuel Cole, votre conclusion en 30 secondes. Vous aviez déjà commencé à évoquer les solutions pour humaniser les prisons.
Oui, la première solution, c'est-à-dire, on doit prendre les mesures contre le magistrat indisciplinaire. En plus, le magistrat, il souhaite être bien humilié avec les moyens. Et il faut aussi dire que les moyens d'action de leur travail n'ont pas permis de bien travailler. Il y en a pas le battement, il y en a pas les chaises et tout ça là. Le magistrat, il souhaite aussi être équipé. Et dans le même temps, il souhaite avoir les formations professionnelles pour les prisonniers. Et entre-temps, l'État doit donner les frais à payer pour les cautions, pour les libertés provisoires. Voilà, là, il y a les problèmes. C'est là que c'est créé la surpopulation. L'État doit définir combien le montant à payer pour que le magistrat ne soit pas machiniste les frais des libertés provisoires.
Merci.
L'arrêt, c'est prononcé à temps. Le cour de cassation, le haut judiciaire, il doit respecter l'arrêt. Il doit respecter l'arrêt. S'il ne respecte pas l'arrêt, les petits poissons aussi ne vont pas respecter l'arrêt. Donc, les gros poissons doivent respecter l'arrêt dans les délais constitutionnels.
Merci Emmanuel Cole. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Donna Madimba qui m'ont aidé à préparer cette émission. Mimi Kindou était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kelly Nkouté. On se retrouve demain, même heure, même fréquence, pour un nouveau débat sur l'actualité de la RDC.